Les marchandes de sable, le conte des conteurs de Nasser Khémir, cinquième épisode. Le vieillard à barbe blanche, dans sa petite cabane, au bord de la plage, se retourna vers moi et dit doucement « Je suis sûr qu'une autre mémoire aurait retenu d'autres lieux, d'autres figures, d'autres itinéraires. Je n'ai jamais su exactement le nombre de jours, de mois ou d'années qui séparent un instant d'un autre, ni leur ordre. Aujourd'hui, je te les livre dans la logique du présent, mais ne tiens tout cela ni pour la vérité, ni pour le mensonge. » Puis, il poursuivit son récit. Le navire arriva sans encombre à Bassora, dont les 70 rues sont longues, chacune de 70 parasanges. Puis nous remontâmes le Tigre jusqu'à l'illustre Bagdad. Je quittai le port et me promenai à l'aventure dans les rues les plus fréquentées. Or, ce jour-là était un vendredi, et j'entrai avec les hommes à la mosquée. Après la prière, je sortis avec les habitants en tenue de fête qui déambulaient dans la ville, respirant l'air frais des jardins cachés derrière les murs. Je suivis la foule et me portai là où elle se portait. J'arrivai ainsi sur une grande place. Je vis, dominant les autres, un palais qui regardait le fleuve et sur le seuil de marbre, assis, un véritable vieillard avec une barbe blanche se divisant en deux touffes égales de filigrane d'argent. Il était entouré de 4 adolescentes et de 5 adolescents. Alors, émerveillé, je demandai qui était ce cheikh. On me répondit que c'était l'ami des jeunes gens, celui qui entrait chez lui manger, buvait et s'enivrait de beauté. Je m'approchai de lui, le saluai et je lui dis « Je souhaite vivement être ton hôte cette nuit. » Il me souhaita la bienvenue et fit signe à un jeune esclave qui me prit par la main et m'introduisit dans le palais jusqu'à la porte du hammam. Puis il me conduisit dans une alcôve où il me confia à une jeune adolescente au visage souriant. Là, le vieillard à barbe blanche s'arrêta encore un instant. Si parfois le fil de ma vie s'en mêle au récit entendu, c'est qu'elle n'était qu'un trait entre eux. Et maintenant, elle est cet écran fragile qui les protège, mais pour combien de temps ? Je ne sais plus si je m'étais endormie ce soir-là, mais je me réveillais une nuit dans des lieux étrangers, à l'intérieur d'une tente. À mes côtés, je trouvais, endormie, une jeune adolescente inconnue. J'eus comme le souvenir miraculeux d'une nuit passée avec elle dans une tour. L'adolescente reposée sur un tapis, la tête posée sur un oreiller de soie. Elle n'avait qu'une chemise de gaze fine et un ample pantalon en étoffe de Mossoul. Et la brise en trouvait près parfois la chemise légère. Je me penchai sur elle et remarquai une cornaline attachée à un fil de soie. Je la dénouai et je sortis de la tente pour la regarder à la lumière. Taillée sur 4 faces, elle était gravée de signes talismaniques et de figures inconnues. Je la tenais sous la lune, quand soudain, un grand oiseau fondit des airs et me l'arracha des mains. Puis il alla se poser sur la cime d'un arbre et me regarda, immobile et narquois. Je pensais à la douleur de l'adolescente découvrant la perte de son talisman. Sans hésiter, je ramassai une pierre. J'allais viser l'oiseau quand il s'envola vers un autre arbre. Et je sautai derrière lui. Et l'oiseau sauta. Et je sautai. Et ainsi de suite, pendant des heures et des heures, de vallée en vallée, et de colline en colline, jusqu'à la tombée du jour. Je m'étendis à terre, épuisé, fixant l'oiseau dont les yeux brillaient étrangement dans la nuit. Je succombai bientôt au sommeil, et je m'endormis jusqu'au matin. À mon réveil, je me remis à sa poursuite, et la même course recommença de jour en jour, jusqu'au 10e jour. Mais, le matin du 3e jour, du 11e jour, j'arrivai aux portes d'une ville située sur la mer. Le grand oiseau s'envola à tire-d'aile et disparut à l'horizon. J'étais dans une telle rage que je me jetai à terre et pleurai longtemps, secoué par les sanglots. Au bout d'une heure, je décidai enfin de me lever. Je rinçai mes yeux à l'eau du ruisseau et je m'acheminai vers la ville. Je franchis les portes et marchai par les rues, sans qu'aucun des nombreux habitants ne m'adresse un regard. Je poursuivis mon chemin jusqu'à la sortie opposée qui menait au jardin. Je trouvai ouverte la porte d'un jardin plus vaste que les autres, et j'entrai. Le jardinier, un vieillard à barbe blanche, me salua et me souhaita la paix. Je lui rendis son souhait de paix et je lui demandai « Mais qui sont ces habitants si peu hospitaliers ?» Le vieillard répondit « Ces gens que tu as rencontrés sont des envahisseurs, venus il y a longtemps des pays noirs de l'Occident. Ils déferlèrent une nuit de la mer, ils assaillirent la ville, renversèrent ses tours, tuèrent ses défenseurs et massacrèrent ses habitants. Tel que tu me vois, je suis le dernier musulman. » Il me conduisit au bout du jardin dans sa modeste maison où, de ses propres mains, il me donna à boire et à manger. Quand je fus rassasié, je lui racontai tout, du début jusqu'à la fin, et je terminai mon récit en fondant en larmes. Il me consola. « Ici, tu trouveras asile et repos, jusqu'à ce qu'Allah envoie un navire qui te délivrera. » Je ne sais combien de temps je restai auprès du jardinier, ni par quel artifice je me retrouvai un soir dans un palais, devant une porte. Sur la serrure, il y avait une clé incrustée d'une turquoise. Je la tournai. La porte céda sans difficulté et s'ouvrit sans bruit, comme d'elle-même. J'entrai dans une chambre nue et vide. J'en fis le tour et je découvris une échelle en bois noir dont le haut sortait par un grand trou dans le plafond. Je grimpai et, la tête hors du trou, je débouchai en plein air sur une vaste terrasse couverte de plantes et d'arbustes comme un jardin. Là, sous la clarté de la lune, je vis se dérouler au milieu du silence de la terre un paysage unique. À mes pieds s'étendait un grand lac, endormi dans la sérénité de la nuit. Au loin, d'un étrange palais au dôme diaphane, surgit dans la transparence du ciel, descendait un escalier de marbre jusqu'à une estrade. Et sur cette estrade, soutenue par quatre piliers d'albâtre rose, un grand voile de soie verte s'étendait au-dessus d'un trône de bois d'aloès. Soudain, je vis se rapprocher un vol de grands oiseaux qui vint se poser au bord de l'eau. Je me cachai. Ils étaient 10 et semblaient obéir à un oiseau plus grand et plus beau qui se dirigea lentement vers l'estrade et s'assit sur le trône. Alors, ils se dépouillèrent de leurs habits de plumes et voilà que sortirent 10 jeunes filles nues qui confondaient la lune de leur beauté. Rieuses, elles sautèrent dans l'eau et se baignèrent avec délices. Puis elles sortirent du lac, et la plus belle remonta sur son trône, avec pour tout vêtement sa chevelure. Et je sentis ma raison s'envoler. Elle surpassait des gazelles par l'éclat de ses yeux. Sa chevelure de ténèbres était une nuit d'hiver, épaisse et noire. Sa bouche était le sceau de Soleiman, ses dents un collier de perles et son cou un lingot d'argent. Lorsqu'elle se fut reposée de son bain, elle demanda ses vêtements à ses compagnes couchées près d'elle sur l'estrade. Elles lui mirent une écharpe d'or sur les épaules, une gaze verte sur les cheveux et une ceinture autour de la taille. Je la regardai, immobile, cachée derrière les arbres. Et l'adolescente dit « Ô princesse, il est temps de songer au départ car notre pays est loin. » Alors elle la vêtirent de sa robe de plume, se vêtirent de la même manière et toutes ensemble s'envolèrent dans la clarté du jour. Et moi, je les suivis des yeux bien longtemps après qu'elles eurent disparu. Je me consumais tous les jours dans l'attente de la nuit, espérant le retour des femmes oiseaux, mais elles ne revinrent jamais plus. Désespérée, je ne voulus plus manger, ni boire, ni dormir, et je m'évanouis. Je repris conscience, secouée par les vagues. J'ouvris les yeux. J'étais dans une barque. Plusieurs années s'étaient écoulées. J'étais devenu un homme. L'adolescence était restée auprès du jardinier. J'étais un autre. Nous avions encore en commun la mémoire du jardin de Hassan, de ma grand-mère et de mon grand-père.